Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce magazine Escale consacré cette semaine à Martine Perret, photographe française qui n'a pas froid aux yeux, mais qui a su aussi, durant 10 ans, poser un regard sensible et curieux sur la vie quotidienne des populations et des casques bleus dans le cadre des opérations de l'ONU au Timor-Leste, au Burundi et en République démocratique du Congo. Martine Perret, bonjour.
Bonjour.
Martine Perret, vous êtes photographe et vous travaillez pour le compte de l'ONU au Timor-Leste, donc ce petit État qui a accédé à l'indépendance il y a 10 ans. Vous avez un parcours qui est intéressant et atypique, surtout parce que c'est un parcours avec les Nations Unies comme à la fois photographe couvrant une institution qui est quand même assez lourde avec des contraintes et en même temps vous avez un droit de parole à travers la photographie. Alors comment vous avez été amené à travailler pour l'ONU ?
En fait, j'étais en Australie au départ, basée en Australie. Je travaillais pour un quotidien financier qui s'appelait le The Australian Financial Review. Et je suis partie couvrir à titre personnel l'indépendance du Timor en 2002. Et j'ai beaucoup aimé ce pays et j'ai décidé, comme mon travail s'amenuisait, j'étais en freelance en Australie, je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais prendre mes valises, je vais m'installer au Timor et on verra ce que je peux faire. Et j'ai commencé à donc faire des petits boulots à droite à gauche, tout en rencontrant des gens de l'ONU, puisqu'il y avait une mission à l'époque. Et petit à petit, les gens me disaient, mais pourquoi tu ne joindrais pas l'ONU en tant que photographe? Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je me suis inscrite sur les volontaires des Nations Unies. En fait, les volontaires des Nations Unies m'avaient contactée plusieurs fois pour divers rôles au sein de l'information publique, mais jamais en tant que photographe. Donc, j'avais toujours refusé parce que moi, j'écris pas du tout. Je suis vraiment purement photographe. Et un jour, ceci dit, on m'a contactée pour le Burundi. Et là, j'étais étonnée parce qu'en plus, je ne connaissais pas du tout le Burundi. Je suis allée sur Google vérifier. Et ben, moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va. Donc, je suis partie pour le Burundi en 2004.
Alors, est-ce que ça a été un choc de travailler pour l'ONU? Est-ce que c'est un choc culturel? Est-ce que, par rapport à, vous nous parlez de freelance, de photographe qui travaille à son compte, qui est photographe indépendante, donc est-ce qu'il y a eu un choc?
Pas vraiment, parce qu'en fait, ça fait, depuis l'âge de 19 ans, de toute façon, j'ai quitté la maison, j'ai vécu un peu dans beaucoup de pays différents. En fait, depuis l'âge de 17 ans, je crois que je rêvais de toutes ces cultures. Donc, en fait, c'est un rêve qui devenait réalité. Donc, ça paraissait tout à fait naturel et c'était plutôt génial. Après, évidemment, c'est assez intéressant de s'asseoir dans un meeting quand on a un Brésilien, un Portugais, un Français, un Ghanéen. Ça rend les meetings, certes, colorés. Non, j'ai trouvé ça plutôt fascinant, en fait. Et puis, le Burundi, c'était un choc par rapport au Timor oriental parce que c'était déjà beaucoup plus mouvementé, on va dire. On entendait les tirs dans les collines. Et c'est vrai que j'étais pas vraiment habituée à ça. Donc, mais le boulot était très intéressant. C'était le début d'une mission au NUB. Donc, ça courait dans tous les sens. Les gens n'avaient pas de bureau. On n'arrivait pas à avoir d'ordinateur. J'ai mis des mois à voir mes appareils. Donc, évidemment, heureusement, en tant que photographe freelance, on voyage toujours avec nos appareils. Donc, j'étais préparée. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être préparée dans ces cas-là.
Est-ce que, justement, vous étiez donc perçu comme photographe ou comme photographe de l'ONU par les populations locales, notamment, je pense, au Burundi ?
Comme j'étais en général accompagnée dans une escorte et dans un groupe, on nous voit arriver comme l'ONU. On est plutôt effectivement onusien puisqu'on arrive avec des voitures blanches. Donc on est clairement vu comme personne de l'ONU. Mais parfois, il fallait expliquer, en fait, parce que parfois, ils étaient résistants au départ. Ils disaient, mais pourquoi tu prends ma photo et qu'est-ce que tu veux et tu vas faire de l'argent sur mon dos? Et en fait, souvent, je disais, bah écoute, c'est comme vous voulez, mais moi, ce que je peux faire, c'est avec ma photographie, ça peut arriver dans des rapports et des donateurs voient ça et éventuellement peuvent décider d'aider votre cause. Une fois qu'on expliquait, je trouvais les choses, ça allait mieux. C'est-à-dire que, et je peux comprendre aussi, si quelqu'un pointe sa caméra sur moi, je ne serais pas forcément très contente. Je voudrais savoir pourquoi. Je sais qu'au Burundi, ça se passait souvent comme ça, au Congo aussi, beaucoup moins au Timor oriental. Mais aussi au Timor oriental, je parlais la langue locale, donc c'était plus simple.
Alors, est-ce que justement, en termes de photographie, il y a des limites, même quand on travaille pour l'ONU? Est-ce qu'il y a des pudeurs à avoir? Est-ce qu'il y a des interdits?
Non, c'est-à-dire que je m'interdis rien. Ceci dit, après, comme je sais que les gens peuvent éventuellement interdire derrière à l'editing, je préfère pas m'auto-censurer si possible, parce que je préfère avoir le maximum de choses possibles. Après, je sais bien que quand on envoie les photos, certaines ne passeront peut-être pas la barre, parce que peut-être qu'elles montrent des choses qu'il ne faut peut-être pas montrer politiquement. Mais a priori, quand je photographie, je ne m'auto-censure pas au départ.
Vous parliez de l'installation de cette mission. Comment vos photos, donc au-delà du journalisme, au-delà de même l'illustration de rapports, est-ce qu'elles servaient à d'autres choses, à d'autres fins?
On a fait, par exemple, des expositions itinérantes aussi. Donc ça permettait d'avoir un contact avec la population locale et de pouvoir communiquer d'une façon assez sympathique, enfin plus sympathique, même le but de la mission. Ça nous donnait un peu un tremplin. Nous, on les utilisait évidemment localement, mais elles sont envoyées à New York, évidemment. Et puis New York les redistribue à droite à gauche. Enfin, il y a beaucoup de façons d'utiliser effectivement les photos, mais l'une des façons dont on les utilisait effectivement dans des expos locales à l'époque. Ça dépend. Chaque mission en fait a été différente. Donc au Congo, mes photos atterrissaient plutôt à Kinshasa parce que j'étais basée à Bunia, à l'est du Congo. Donc j'étais même pas dans le siège mère, si vous voulez. J'étais sur le terrain. Donc je renvoyais mes photos à la base, qui eux-mêmes redistribuaient à droite à gauche. Donc dans chaque cas, c'est un petit peu différent l'utilisation des photos et comment on essaye de communiquer, vous voyez ?
Alors justement, également sur ces photos, c'est très dur de le faire en radio, c'est un exercice très difficile, mais si on prend le Burundi par exemple, oui. Est-ce qu'il y a des photos ou une photo en particulier qui vous ont marqué tant dans la réalisation, l'approche des populations ou l'approche des gens ou des casques bleus, que le fait même ou la photo elle-même, l'objet de cette photo ?
Moi, je pense surtout, enfin bon, je suis sûre au Burundi, hein, il y en a beaucoup, je pense au Congo, surtout à cette femme. Je faisais un travail, en fait, sur UN MAC Action, le déminage, si vous voulez. À Bunia, il y a beaucoup de mines. Et donc, quand j'ai commencé cette histoire, je me suis dit, mais en fait, bon, là, c'est très technique. Ce qui serait quand même bien, c'est de voir qui a sauté sur ces mines, quelles sont ces personnes. Et en fait, quand j'ai demandé aux démineurs, mais comment vous avez décidé de commencer ce projet? Et c'était une femme qui avait effectivement sauté sur une mine en allant chercher de l'eau le long de la rivière. Et donc, j'ai décidé de retrouver cette femme. Et elle était à l'hôpital MSF de Bunia. Je suis allée la voir. Et en fait, elle a quitté l'hôpital le jour même où j'allais la voir. Donc, j'ai eu de la chance de la retrouver. Et je l'ai suivie chez elle. Cette femme, en fait, était magnifique, était radieuse, mais en fait, elle n'avait plus de jambes. Son mari l'avait quittée et en fait, elle avait perdu son bébé quand elle était enceinte de 6 mois. Donc vraiment, quand même, une catastrophe dans sa vie. Quelque chose qui m'a vraiment touchée et émue. Je suis revenue au bureau un petit peu déprimée, j'avoue, d'avoir passé l'après-midi avec elle, aussi radieuse, mais avec tellement de poids et de lourdeur dans sa vie. Donc j'ai demandé à mes collègues si c'était possible de voir si on pouvait faire quelque chose. Il doit bien y avoir quelqu'un qui fait des prothèses quelque part. Et j'avais entendu parler du CICR à Goma. Alors, mon ami collègue les a contactés et on a décidé de faire une collecte entre collègues de l'ONU pour réunir suffisamment de fonds pour pouvoir l'envoyer à Goma et qu'elle soit prise en charge et qu'on lui fasse des prothèses. Et c'est ce qui s'est passé. Le temps que tout ça se fasse, ça a pris quand même quelques mois. Moi, j'étais entre-temps partie au Timor oriental et un jour, j'ouvre mon email et je vois des photos d'elle rentrant de Goma avec ses béquilles et elle avait ses prothèses et ça m'a donné, en fait j'avais des larmes aux yeux parce que vraiment ça m'a émue.
Ça c'est une histoire bien sûr fort touchante, mais est-ce que dans l'action même, lorsqu'on a l'œil rivé sur l'œilleton de l'appareil photo, est-ce qu'il y a des choses des fois qui sont trop fortes, enfin qu'on ne peut pas montrer ou qu'on a du mal justement à traduire en termes de photo? Est-ce que parfois dans le mouvement, même si on est habitué depuis des années, on travaille pour des journaux ou on travaille pour l'ONU, est-ce qu'il y a des situations ou des cas où vraiment c'est très dur?
Déjà, dans cette situation, je trouvais que la voir dans sa petite case où il n'y avait rien dans sa case, où elle était assise par terre, elle ne pouvait pas bouger puisqu'elle était dépendante de sa famille et elle avait ce sourire magnifique et radieux, je trouvais ça incongru en fait et je ne comprenais pas bien. Et je me disais, bon, et on se plaint nous-mêmes d'une douche qui ne marche pas, d'un internet qui ne marche pas, elle a des problèmes beaucoup plus gros. Ça peut être dérangeant quand on photographie personnellement parce que son histoire m'a touchée profondément. Après, d'autres situations plus troublantes mais plus au niveau personnel, c'est quand on vous tire dessus ou quand des roquettes ou des je sais quoi atterrit à côté de vous, c'est clair que c'est pas très sympa et ça peut être dérangeant à un autre niveau. Ou par exemple un homme qui était dans un tank avec nous qu'on était en train d'évacuer et qui est mort pratiquement devant nous et qui pissait du sang sur mes chaussures et que je regardais et que je savais pas quoi faire et qu'on a ramené à l'hôpital, c'est vrai que ça peut pas vous laisser insensible.
Pour en revenir sur le Timor, on l'a dit, vous avez passé 7 ans là-bas. Vous êtes allé essayer de voir ce qui se passait, de voir la naissance d'un État, de voir quelles sont ses populations. Il y a forcément des liens qui s'établissent avec les populations et au bout de moment, est-ce que cette proximité justement n'est pas non plus dérangeante ?
Non, bah alors déjà, j'ai commencé à apprendre la langue parce qu'elle n'était pas très difficile et je me suis dit, il n'y a rien de mieux. Enfin, en général, quand j'arrive dans un pays, j'essaye d'apprendre la langue, au moins les bases, pour pouvoir baragouiner. C'est un peu dur pour moi.
Ah, alors, pour le journaliste ignare, la langue au Timor, c'est quoi?
C'est le tétoun. Et donc, voilà, et au moins pour pouvoir communiquer et aller au fin fond du Timor et pas être embêté parce que je ne comprenais rien. Donc ça, c'était génial de pouvoir communiquer. Effectivement, les liens se tissent avec beaucoup de gens, à l'international et au niveau du Timor. Moi, je trouve ça plutôt génial. En fait, j'ai adoré et c'est vrai que j'ai un lien particulier avec le Timor, beaucoup plus que j'ai eu avec le Congo et le Burundi parce que j'y ai passé aussi beaucoup plus de temps. Et comme je vais m'installer en Australie et que le Timor, de toute façon, est juste à côté de l'Australie, c'est parfait. Donc si je veux y retourner, parce qu'il y avait encore des histoires que j'ai peut-être pas pu encore raconter et que j'aimerais bien continuer.
Par rapport à l'ONU également, il y a ce lien qui est inévitable, donc, et même en termes de sécurité, vous parliez de vos visites sur le terrain où vous êtes accompagné et il peut y avoir de réelles menaces, donc il y a les casques bleus, etc. Est-ce que également vous pouvez vous exploiter en termes de droits les photos que vous faites, est-ce que c'est uniquement pour l'ONU? Est-ce que vous pouvez également, par exemple, si vous souhaitez publier un livre de tout cela ou d'autres donc activités, expositions ou autres?
C'est une bonne question, merci de me l'avoir posée. Non, écoutez, je pense que si on écrit quelque chose qui est évidemment négatif sur l'ONU et en utilisant des photos de casques bleus, je pense que ça ne passera pas très bien. Mais je pense que de toute façon, si un jour j'essaye de publier un livre, ça sera essentiellement quand même des photos que j'ai faites dans mon temps à moi, éventuellement parsemées de quelques photos, parce que certes, 7 ans, c'est pas rien, évidemment, dans une vie. Et il y a beaucoup de photos que j'ai prises en tant que photographe l'ONU qui me tiennent à cœur, qui sont très fortes. Donc je pense que j'en utiliserai peut-être certaines dans ce que je ferai, mais enfin, ça reste à voir. Mais non, en général, quand vous photographiez, évidemment, c'est quand vous travaillez pour l'ONU, c'est pour l'ONU. Donc, je n'ai pas vendu mes photos. Ou...
je ne doute pas de votre éthique. Je dis juste, est-ce qu'il y a un problème en termes d'appropriation ou de lorsqu'il faut lâcher une photo, lorsqu'on s'est beaucoup investi et qu'il faut dire, bon, cette photo, soit parce que d'abord, elle appartient à une institution, soit également parce que, voilà, elle va faire son temps, elle va réaliser l'objectif pour lequel elle a été faite, mais en même temps, l'histoire se termine, il faut passer à autre chose.
C'est pas vraiment un problème, en fait, pour moi, parce que d'abord, j'ai eu la chance quand même incroyable d'aller sur des terrains et des situations où je n'aurais jamais été capable, parce que grâce à l'ONU, aux hélicoptères, à certaines situations, vous ne pouvez pas forcément, même en freelance, accéder à certaines situations. Donc de toute façon, j'ai été dans des situations dans lesquelles je n'aurais pas pu être, pardon, si je n'avais pas été évidemment dans le cadre de l'ONU. Donc je pense qu'à ce niveau-là, j'en serai éternellement reconnaissante. Et donc, ça ne sera vraiment pas un problème de partager ça.
Dernière question sur le Timor, et puis j'en aurai une ou deux autres encore, mais sur le Timor, parce que ce qui m'intéresse, c'est la durée de votre séjour, ou de vos séjours en tout cas au Timor. Comment vous avez vu évoluer ce pays? On parle de 10 ans d'indépendance aujourd'hui, c'est quand même un petit pays qui a bénéficié d'un soutien important de la communauté internationale, l'ONU s'apprête à se retirer progressivement, donc comment vous voyez l'évolution de ce pays de 2002 à aujourd'hui?
Oh, ça a quand même beaucoup évolué, et déjà entre 99, vous seriez allé à Dili, 80% de Dili était brûlé, effondré, écroulé. Enfin, c'était... Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de petits restaurants le long de la mer, beaucoup de choses ont été reconstruites, donc ça a quand même beaucoup changé. Les districts, c'est un peu plus lent et donc ça prend plus de temps. Mais je pense que c'est dans beaucoup de pays. Hein, la capitale bénéficie en général de plus... l'aide arrive en premier. Mais écoutez, moi j'ai trouvé que le pays a beaucoup changé. Je suis assez positive. Après... Bon, on va effectivement quitter dans quelques semaines. Moi, je quitte dans 2 semaines, en fait. Et normalement, la mission ferme fin décembre. Donc, moi, je souhaite beaucoup de chance aux Timorais pour la suite.
Qu'est-ce que vous leur dites en tétoun?
Hau kontente teptebez tamba hau tinan hitu amutoko Timor-Leste entan parabens.
Merci.
Merci.
Voilà, et c'est avec la photographe Martine Perret que se referme ce magazine Escale, présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Florence Westgaard, d'Élodie Sabot, de Rosie Star et de Peter Courisco. Un magazine à retrouver sur l'internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.